La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est l'histoire de grands lecteurs qui avaient une vision du monde, des personnalités pour lesquelles lire dans leur coin ne suffisait pas et qui avaient envie de prendre leur part dans la culture commune, de l'influencer et d'y imposer leur marque. Tous ces éditeurs dont nous allons parler cette semaine avaient en effet en commun le goût de la liberté et la volonté de partager avec d'autres l'univers qui leur tenait à cœur. C'est en cela qu'ils s'engageaient. Ces éditeurs, ils ont émergé à la moitié du XXe siècle et ont aujourd'hui disparu pour la plupart. Ils ont accompagné un moment de l'édition française. Ce secteur d'activité dont nous referons l'histoire depuis l'année charnière de 1975, ce sera avec Olivier Bessard-Bonqui, auteur notamment du livre « L'industrie des lettres » aux éditions Pocket. Mercredi, Tiphaine Samoyau nous parlera, elle, de Maurice Nadeau, éditeur et fondateur du magazine « La quinzaine littéraire », découvreur notamment de Michel Houellebecq et de Nathalie Sarraute, entre beaucoup d'autres. Et puis demain, nous reviendrons sur l'histoire des éditions de Minuit, créée dans la Résistance, puis devenue berceau du nouveau roman. Nous serons pour ce faire avec Anne Simonin. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de l'éditeur de Sade et d'Histoire d'eau, Jean-Jacques Pauvert, nous sommes en votre compagnie, Chantal Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, autrice de différents ouvrages, dont La femme et le travesti, paru aux éditions du Rouergue en 2012. Et puis à l'automne dernier, vous avez publié, aux éditions de L'Échappée, le livre Pauvert l'Irréductible, une contre-histoire de l'édition. Et on peut peut-être dire, Chantal Aubry, que c'est le livre que Jean-Jacques Pauvert avait lui-même envisagé d'écrire, mais qu'il n'avait jamais pris le temps de faire.
Oui, en effet, il m'avait même, toute jeune, fraîche émoulue des études de sciences politiques.
Juste après 68, juste après mai
68. Voilà, il m'avait engagé pour éventuellement travailler sur un livre dont il avait l'idée qui lui avait d'ailleurs été soufflée par son ami Jean-François Revel, et idée qui était certainement à l'origine destinée à la fameuse collection Liberté, dirigée par Jean-François Revel. Il avait donc l'intention de faire un livre sur une réflexion sur son métier. Ce livre aurait résulté d'articles absolument fracassants qu'il avait publiés quelques années avant, qui était une dénonciation de la massification de l'édition, deux articles qu'il avait publiés dans le journal Le Nouveau Candide, et qui était titré, le premier, La maladie de l'édition, et le second, L'usine à livres. Et en fait, c'était, quand on les reprend aujourd'hui, on voit à quel point il avait une lucidité, une prescience tout à fait forte sur la manière dont le métier était, en effet, à l'époque, déjà en train d'évoluer.
Alors, il voulait appeler ça l'école de l'édition,
voilà.
Mais il ne le fit jamais. Quand vous rencontrez Pauvert, alors vous dites vous-même dans votre livre que vous étiez une débutante.
Oui.
Et puis, vous commencez alors à faire ce travail de documentation.
Voilà.
Avec lui,
oui.
Mais vraisemblablement...
C'est lui qui m'a appris beaucoup.
Il n'a pas eu le temps à ce moment-là, parce qu'il s'occupait déjà de tellement de choses.
Alors, en réalité, c'est une période, mais moi, très jeune, on ne pouvait pas... Et puis les jeunes gens qui étaient autour de moi chez Pauvert étaient dans la même situation que moi. On ne pouvait pas se rendre compte à quel point il était dans une période extrêmement difficile, puisque juste après mai 68, et après l'aventure de l'enragé avec Ciné, il avait été mis en règlement judiciaire, hein, en octobre 68. Bon, donc c'est un moment moi où j'étais là, mais donc il était dans une période probablement aussi de prise de recul par rapport à son métier. Il avait envie un petit peu, voilà, de jeter de nouveau peut-être une pierre encore dans le marigot. Et donc, en fait, on a commencé à travailler sur ce livre. Moi, il m'a appris énormément de choses. Ça a été pour moi une école de l'édition, véritablement. Mais il a été tellement bousculé, parce que c'était vraiment une période extrêmement difficile pour lui, que...
Et puis financièrement aussi, c'était pas facile. Il était sur tous les fronts. Il fallait renflouer sa maison.
Voilà, voilà. C'était les ennuis, les embarras financiers ont été plus forts. Et donc, on a très vite lâché le travail sur cette idée de livre. Et il m'a fait faire d'autres choses dans la maison. Je suis restée 2-3 ans. Voilà. Voilà. Mais j'étais aussi dans les premières charrettes parce qu'après, il y a eu nouveau, voilà, des difficultés financières encore plus graves. Et voilà, toute l'équipe, au fur et à mesure, est partie.
Et puis, en 2014, après la mort de Jean-Jacques Pauvert, qui meurt cette année-là, vous vous dites que vous allez reprendre ce travail. Lui-même avait laissé des mémoires, La traversée du livre, aux éditions Viviane Ami en 2004. Mais il n'empêche que c'était un homme qui était très secret. Est-ce que ces mémoires, on peut vraiment leur... accorder beaucoup de crédit, ou est-ce que il faut savoir lire entre les lignes?
Voilà, c'est comme à tous les mémoires aussi, c'est-à-dire que c'est une chose que j'explique un peu au démarrage du livre, c'est-à-dire que pour nous tous, la mémoire est défaillante, souvent elle a des défaillances, disons. Et puis il y a aussi toute cette saga des éditeurs, des grands éditeurs, sur toute cette période, qui fait que les légendes naissent, se nourrissent d'elles-mêmes, quelquefois les éditeurs se laissent aller à les nourrir. Ajouter encore quelques détails.
Ça a été le cas pour Jean-Jacques Pauvert.
Jean-Jacques Pauvert, oui, a été un peu comme ça sur un certain nombre d'histoires. Il a laissé les choses, les erreurs de la presse, etc. Il a laissé les choses se faire et puis il en a, histoire de peut-être s'amuser parce qu'il était quand même très, très farceur quelque part. Il en a rajouté un peu, oui.
Du coup, on a l'image d'un éditeur qui est un éditeur érotique et on le présente de manière presque folklorique parfois. Or, Jean-Jacques Pauvert, c'est un peu au-delà de ça quand même.
Oui, c'est beaucoup plus que ça. Oui, je crois quand même que les légendes ne sont pas que de son fait d'ailleurs, que tous les éditeurs de cette période ont tous quand même un petit peu enjolivé dans toutes les mémoires, même celle du grand nado. Mais moi, ce que j'ai fait, c'était pour lui payer mon tribut, en quelque sorte.
C'est un beau tribut, alors, parce que c'est une étude très approfondie, quand même, que vous
Mais voilà, faire. Parce qu'il y a les mémoires d'un côté, mais il y a aussi le travail d'essais biographiques, de recherche, et il y avait effectivement un certain nombre d'archives à ma disposition, et c'était dans ce sens-là que je voulais à la fois revisiter ma propre biographie, si je puis dire, très modestement, le moment charnière que ça a été pour moi dans ma vie et pour la génération à laquelle j'appartiens, et en même temps, prolonger ce travail et porter ses idées un peu aussi, quand même. Voilà,
donc
idées d'un éditeur indépendant.
Exactement, ça c'est important, on reviendra dessus. Vous dites que c'est quelqu'un qui a été un grand éditeur grâce à une activité éditoriale raffinée, obsessionnelle parfois, voire extravagante, menée dans un contexte littéraire et intellectuel particulièrement effervescent.
Oui. C'est l'après-guerre, c'est les bagarres de l'après-guerre, de l'épuration. C'est ensuite la guerre d'Algérie. Enfin, c'est une période intellectuellement, politiquement extrêmement forte, extrêmement effervescente, en effet. Et lui, il s'inscrit vraiment cette effervescence, voilà. Et lui et quelques autres, comme Losfeld, Jérôme Lindon, l'édition de Minuit, et comme quelques autres.
Des auteurs sur France Culture, nous parlons de Jean-Jacques Pauvert avec vous, Chantal Aubry. On va reprendre un petit peu l'histoire, la biographie de cet éditeur qui est né le 8 avril 1926 dans une famille dont on peut dire, Chantal Aubry, qu'elle était à la fois bourgeoise mais en même temps très peu conformiste.
Exactement, par la branche maternelle surtout, puisqu'il a un grand-père et un grand-oncle qui étaient des anarchistes individualistes, comme on disait à la fin du 19e.
Ça veut dire des anarchistes de droite?
Pour le cas de Jean-Jacques Pauvert, je pense qu'on peut aller jusque-là. Oui, pour le cas de ses ascendants, voilà, disons que c'était des anarchistes bourgeois, mais compagnons de route quand même des anarchistes plus musclés, on va dire. Et notamment le grand-oncle André Salmon, qui était un grand critique d'art, a été très très proche des gens du procès des 30. Enfin, il était plus jeune, lui, hein, il était un peu plus jeune. Enfin, c'est quelqu'un qui était dans cette mouvance-là, quand même. Et grâce au grand-père et au grand-oncle, Jean-Jacques Pauvert, très tôt, a eu une ouverture au niveau des lectures et des auteurs extraordinaire.
Mmh. Voilà. Donc c'est un jeune homme, un garçon, qui a tout de suite beaucoup lu.
Voilà. Voilà, il est mauvais élève et grand lecteur.
Voilà, c'est même un cancre. Vous racontez que autant il a de mauvais résultats scolaires, autant quand il est question de Valérie en cours, il arrive avec son propre volume de Valérie à 13 ans ou quelque chose comme ça.
Oui, il l'a raconté en effet. Mais il ne lisait pas que Valérie, il lisait énormément de choses, à la fois dans la bibliothèque de son grand-père Georges Salmon, les Kropotkin, il lisait Biribi de Darien. Il s'étonne d'ailleurs que le voleur, le fameux voleur de Georges Darien, qu'il a édité par la suite et qui a été un de ses livres fétiches, ne figurait pas justement dans la bibliothèque de son grand-père. Il a lu déjà Kropotkin. Il n'y a pas que la bibliothèque du grand-père, il y a aussi l'école où quelqu'un comme José Dupin, qui est un maurassien signalé, mais un très brillant professeur de lettres qui a enchanté des générations d'élèves au lycée La Canale.
De Sceaux, où donc vit la famille Pauvert.
Voilà, donc c'est lui qui l'introduit à Chateaubriand, qui sera l'auteur de sa vie, et aussi à La Bruyère, dont il dit que les styles de La Bruyère l'hypnotisaient littéralement.
Donc il y a la lecture qui est assez partagée donc, dans la famille, et puis lui il a sa vie propre, une vie personnelle que là il garde pour lui, c'est la campagne à Sceaux, qu'il définit comme un paradis pour les enfants, c'est aussi les jeunes filles. Qu'il aime quand même bien.
Oui, on peut dire que ce sera une constante de sa vie, oui, en effet.
C'est les vacances en Dordogne, dans une très vieille maison, où là, il explique qu'il lisait à la bougie.
Voilà, oui, c'est très joli, oui.
Et puis, c'est bientôt la compagnie d'un professeur, José Lupin, qui considère qu'au fond, il ferait mieux de quitter le lycée, c'est ça, et d'aller faire autre chose.
C'est en effet ce que Lupin a dit au moment où il a fait virer Jean-Jacques Pauvert du lycée, dans une charrette où ils étaient une douzaine d'élèves. C'était en pleine guerre, il faut savoir aussi, le contexte devait être quand même assez bizarre. Mais ça ne l'a pas empêché de rester ami avec José Lupin, donc son introducteur en littérature, y compris par exemple sur Arsène Lupin soi-même. Puisque justement, par la suite, Jean-Jacques aura un peu tendance à s'identifier à Arsène Lupin. À d'autres auteurs plus interdits, comme Nerval, Rimbaud, voilà. Ils resteront amis, finalement. Et ce qui est drôle, c'est que Lupin sera lui-même correcteur du littré que Jean-Jacques Pauvert éditera à partir de 1956. C'est assez amusant.
Il fallait travailler, c'était la guerre. Mes parents m'ont dit, tu veux pas travailler au lycée, faut que tu travailles, faut que tu gagnes ta vie, on pourra pas te nourrir toujours, etc. etc. J'avais 15 ans, c'est quand même un peu tôt, mais enfin c'était comme ça. Et puis, mon père a eu l'idée, après plusieurs essais, comme ça, il connaissait Gaston Gallimard, il lui en a parlé, Gaston Gallimard lui a dit, un garçon qui lit, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas travailler chez nous? Pourquoi pas? Moi, on m'a proposé ça, j'ai pas sauté de joie, hein. Je me suis dit, bon, faut travailler, ça me faisait suer de travailler, à 15 ans. Et puis, je me suis retrouvé apprenti vendeur à la librairie Gallimard, boulevard Raspail,
qui existe toujours.
J'ai été d'abord présenté à Gaston Gallimard, qui est en fait le personnage important. Le premier que j'ai rencontré, ça a été Gaston Gallimard, qui était fort gentil, un peu cérémonieux comme ça, qui m'a dit « monsieur ». Et c'était la première fois qu'on m'appelait « monsieur ». J'étais très... vous aimez les livres, pourquoi ne travailleriez-vous pas chez nous à la librairie Gallimard ? Je n'allais pas dire non. Quand Camus est arrivé, faut imaginer ce que c'est que la sortie en 1942, à quelques mois d'intervalle, de L'étranger du mythe de Sisyphe. Dans une librairie où il se passait pratiquement rien. Il n'y avait plus de livres, c'était très rare, les rayons étaient vides quand on entrait dans les librairies, pratiquement. Enfin, il restait tous les auteurs invendables, qui d'ailleurs se sont vendus. L'édition française a fait fortune hein, pendant la guerre, faut voir ça.
Oui.
Ils ont vendu tout ce qu'ils auraient soldé, sinon ils étaient en train de solder. Il y a eu tous ceux qui avaient soldé en 39-40, eux qui n'ont pas fait autant fortune que les autres, et tous les autres se sont mis à vendre toutes leurs caves. Des gens complètement invendables. Gallimard s'est mis à vendre tous les magnifiques auteurs qu'il avait publiés avant-guerre, c'est-à-dire Henri de Berly, Lucien Favre, des gens nuls et sans intérêt. Et il s'est débarrassé de tous ces stocks, comme ça, des comptes d'auteurs, des trucs comme ça. Grasset a vendu tous ses comptes d'auteurs. C'était prodigieux. Donc il y avait très peu de livres. Et la publication de certains livres marquants, Pilote de guerre de Saint-Exupéry, parce que ça a été saisi tout de suite. Je crois que c'est aussi 42, quelque chose comme ça, ou 41. Et tout d'un coup, en 42, ce garçon que personne ne connaissait, qui venait d'Afrique du Nord, comment d'ailleurs, on ne savait pas, et qui tout d'un coup débarque avec L'étranger, le mythe de Sisyphe. Moi, j'ai lu ça, je suis tombé à la renverse.
Jacques Pauvert au micro de Christine Goémé en 1990. Chantal Aubry, que retenez-vous de ce qui vient d'être dit sur toute cette période passée comme employée à la librairie Gallimard ?
Eh bien, c'est un garçon débrouillard qui très vite commence à comprendre à la fois le métier de la librairie, mais aussi le métier des livres anciens, jusque j'ai compris les curiosas, c'est-à-dire les livres érotiques qui marchent avec la bibliophilie hein, d'une manière générale, et qui très vite va se mettre pour son propre compte au courtage. Et ça, c'est un aspect de sa vie.
Ça veut dire quoi être courtier?
Alors être courtier, c'est justement aller sur les quais, aller dans les ventes, trouver des livres anciens, de qualité, des beaux livres, savoir les acheter à un prix intéressant et savoir les revendre et trouver les clients et les bons clients pour les revendre à un très bon prix.
Donc c'est de la bibliophilie.
Oui, c'est ce qu'on appelle le courtage. Voilà, c'était. Mais lui-même n'était pas bibliophile. Jean Castelli, qui a été son adjoint pendant très longtemps, me l'a dit et redit. Lui n'était pas. Il aimait faire des beaux livres, mais il n'était pas de cette catégorie très particulière que sont les bibliophiles. Voilà. Oui. Mais il a beaucoup fréquenté ce milieu-là. Voilà. Et puis il a aussi, pendant cette période à la librairie Gallimard, c'est là où il commence à fréquenter le gratin de la gente littéraire de Saint-Germain-des-Prés à l'époque.
Alors ouais. On va en parler, mais il faut dire quand même que le contexte historique est important, puisqu'on est là dans le Paris occupé. Il y a, comme vous venez de le dire, un espèce de trafic aussi, un marché de livres rares. Quelle est sa position à lui, finalement, de jeune homme dans la France occupée ? Est-ce que, par exemple, on peut dire qu'il s'opposait aux Allemands ?
Sa position à lui est celle d'un sceptique né, je veux dire. Ce qui va beaucoup avec, déjà, une espèce de fibre anarchiste, quand même. Et donc, il est quelqu'un qui aura toujours tendance à renvoyer tout le monde dos à dos. Hein, l'extrême droite comme l'extrême gauche. Voilà, c'est quelqu'un qui déteste cette idée qui va faire polémique dans les années qui vont suivre de l'engagement, justement. Et très jeune, sa sensibilité apolitique, si on peut dire, s'affirme de cette manière-là.
Voilà. Ça va lui créer des ennemis, ça ?
À cette époque-là, non, il est trop jeune. Non, pas à cette époque-là.
Plus tard, peut-être.
Voilà, c'est une ligne qui gardera plus ou moins et qui lui créera quelques inimitiés plus tard.
Alors, il raconte dans ses mémoires qu'il avait trouvé puéril la manifestation d'étudiants anti-allemands le 11 novembre 1940 devant l'Arc de Triomphe. C'est un exemple de ce que vous dites, Chantal Aubry. Il raconte aussi qu'il s'est fait arrêter par les Allemands et qu'il a fait 3 mois de prison parce qu'ils avaient trouvé un tract anglais dans sa poche, c'est vrai ?
Il le raconte. J'aurais jamais aucun moyen de le vérifier.
Et alors sur...
C'est possible, hein,
c'est possible, possible. Ça vous semble probable.
Oui.
Sur les étoiles jaunes que l'on voit cousues sur les vêtements des Juifs, il dit qu'il se souvient d'avoir plaisanté d'abord avec ceux qui les portaient, mais qu'ensuite il a compris la gravité de la chose, et c'est notamment parce que son père lui a expliqué ce qui se passait vraiment.
Oui, ça, il le dit dans ses mémoires, en effet. Je pense que... Comme le dit Maître Garçon d'ailleurs dans son fameux journal de l'occupation, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je le cite en partie dans mon livre, les jeunes de l'époque étaient quand même un peu décérébrés politiquement. Hein, il y avait quelque chose d'une manière de se protéger, de faire du marché noir et aussi de s'amuser. Enfin, les fameuses surprises parties après-guerre, elles ont commencé déjà à cette époque. Et donc, je pense que Jean-Jacques Pauvert, qui lui était plus sauvage, ne fréquentait pas du tout Saint-Germain-des-Prés pendant la guerre comme après, mais était un garçon qui était justement, il dit, la droite, la gauche, ça me passait par-dessus la tête, l'antisémitisme. Ça me passait un peu par-dessus la tête. Il n'avait pas compris tout de suite. Et puis, il venait quand même aussi, d'un milieu, parce que ses parents, sa mère même a fait de la résistance, mais c'était justement le milieu scolaire, l'environnement où il y avait un antisémitisme ordinaire qui traînait quand même.
En fait, il dit qu'il avait du mal à prendre Céline au sérieux. Pour lui, c'était trop, finalement, pour qu'on puisse prendre cet écrivain au sérieux.
Il pousse le bouchon un peu loin. Hein, et il dit, justement, il a toute une démonstration pour expliquer que la question du sémitisme, justement, lui passait par-dessus la tête, et que Gide lui-même avait été arrivé au moment de la publication de Bagatelle pour un massacre, c'est-à-dire en 37, plusieurs années avant la guerre. Je pense qu'il l'a lu, s'il l'a lu, il l'a lu plus tard, Jean-Jacques, hein, mais que Gide était même arrivé à démontrer que Céline n'était pas du tout antisémite, et qu'il n'y avait rien du tout dans Bagatelle, ce qui est quand même un peu énorme. Donc je pense que là, il faisait de la provocation, ce qui était le cas fréquent de Jean-Jacques Pauvert. Il aimait beaucoup faire de la provocation.
Et jusqu'à la fin, il fera de la provocation. C'est très constant de son caractère.
Peut-être même en vieillissant, j'ai le sentiment qu'il en a fait encore plus.
Il disait aussi que quand il a découvert Sade et les 120 journées de Sodome, c'est un livre qu'il faisait rire et qu'il ne prenait pas là non plus au sérieux.
Oui, mais par ailleurs, il est capable de dire aussi que ça a été un choc absolument fondamental, il y a de quoi, et qu'il est resté fasciné par ce livre qu'il a lu très jeune. Il dit en 42, je pense, je sais pas si c'est vraiment 42, parce que ça ferait 16 ans, mais entre 16 et 18 ans, il a lu Les 120 journées de Sodome. C'est un peu sa scène primitive. Bon, je préférerais des scènes plus douces comme scène primitive, en ce qui est, voilà. Et donc, c'est quand même quelque chose qui l'a énormément marqué.
Mais moi, j'ai eu la chance ou la malchance de tomber là-dessus, très brutalement. À 16 ans. Et 16 ans, c'était en 1942. J'avais 16 ans en 1942. Alors déjà, à l'époque, je fréquentais des gens à la Nouvelle Revue Française, comme on disait à l'époque, chez Gallimard, comme ça, qui étaient Paulhan, Queneau. Et puis des gens à l'extérieur, comme Cocteau. Et tous ces gens-là parlaient, enfin, je suis pas Cocteau d'ailleurs, assez peu, parlaient de Sade, beaucoup, disant ce grand philosophe, ce grand écrivain, etc., etc. C'était dans l'air, puis j'avais lu des trucs dans la Révolution surréaliste, mais j'avais jamais lu les 120 journées de Sodome, et on ne trouvait pas Sade. Et un jour, un bouquiniste des quais, que je fréquentais pas mal, m'a dit, oh, dis donc, toi, tu t'intéresses au livre cochon, j'ai un petit lot. Bon, il m'a sorti un paquet de livres dans lequel il y avait effectivement ce qu'on appelait à l'époque des livres cochons, des illustrés, avec des belles gravures en couleur, des choses comme ça. Et dans le tas, il y avait deux livres. Ça, je ne sais pas, c'est une sorte de rencontre, de hasard extrêmement objectif. Il y avait deux livres. Il y avait l'histoire de l'œil de bataille et il y avait les 120 journées, donc dans l'édition originale.
Et c'est comme ça qu'il a rencontré Sade, qui est Chantal Aubry, qu'on le veuille ou non, quel que soit le cliché qui colle finalement Sade sur la personne de Jean-Jacques Pauvert, c'est la plus grande rencontre de sa vie.
C'est une rencontre décisive, incontestablement, et à laquelle il se tiendra jusqu'au bout, puisque donc sa décision très jeune, après avoir lu ce livre, disons, exceptionnel, il décidera d'éditer Sade au grand jour. Hein, c'est-à-dire...
Donc c'est le premier à faire ça, c'est ça qu'il voilà. faut expliquer, parce voilà. qu'aujourd'hui, éditer Sade, on pourrait se dire
c'est
puis quoi
banalité.
Encore. Et alors voilà. Tandis que là, pour la première fois, il met un nom d'éditeur, son nom à lui, sur ses écrits qui avaient toujours finalement circulé sous le manteau.
Voilà, qui avaient été édités par des gens comme Maurice Heine, comme Pascal Pia, tous les grands spécialistes des curiosas de l'entre-deux-guerres. Voilà, et lui, mais toujours sous le manteau. Et lui va décider, à force d'entendre tous ces adultes parler de Sade et dire que Sade est absolument l'auteur fondamental qu'il faut...
C'était à la mode de dire ça aussi dans les milieux. Voilà, on ne disait pas branché, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait.
Voilà. C'est très amusant, d'ailleurs, parce que Revel raconte aussi comment même les jeunes étudiants faisaient des lectures de 120 journées pour initier leurs petites camarades. Enfin, c'est assez surprenant quand même. Mais donc, lui, il décide, puisque tout le monde parle de ça, moi, je vais l'éditer et je vais mettre mon nom sur la couverture.
Est-ce qu'il veut simplement faire un coup, ou alors est-ce qu'il veut, comme il l'a raconté plus tard, essayer de comprendre pourquoi Sade est le seul à écrire quelque chose comme ça ?
C'est certainement pas pour faire un coup. C'est qu'il y a, je pense qu'il y a, un instinct chez lui, une intuition qui est presque plus du l'ordre du sensible que de l'intellectuel réellement, qui fait qu'il sait que c'est important de le faire et il veut être celui qui va le faire. Et c'est ce que j'appelle le geste d'éditeur, au même titre qu'on parle du geste de l'architecte. Voilà, c'est son premier grand geste d'éditeur.
Mmh. Alors, il va écrire ensuite un livre monumental sur Sade, qui s'intitule « Sade vivant » en 3 volumes, mais c'est beaucoup plus tard dans sa vie. Il va différer pour les raisons qu'on a dites, qu'il a beaucoup de choses à faire. Il a différé l'écriture de ce livre. Il a été réédité, ce livre, pour ceux qui souhaiteraient le lire, aux éditions du Tripode en 2013. Toujours est-il que cette séquence avec Sade, elle se fait avec un mentor. Et ce mentor, c'est Jean Paulhan. Il faudrait peut-être qu'on parle un petit peu de la relation qu'ont entretenu ces deux hommes à l'époque où Paulhan était directeur de la NRF.
Voilà, c'est même avant,
puisque
c'est pendant la guerre et que justement Paulhan ne dirigeait plus la NRF.
Oui, parce que la NRF était
voilà, il faisait à la fois de la résistance et à la fois il était très mondain dans le Paris occupé, mais c'était un authentique résistant, Paulhan. Et donc il avait clairement, dès 40, décidé qu'il ne... Et donc il avait passé le relais à Drieu-La Rochelle, dont on sait ce qui lui est arrivé. Donc il fait sa connaissance très tôt, effectivement, pendant la guerre, et il parle de tout, et surtout de Sade, et il n'est pas le seul, parce que Jean-Jacques aimait beaucoup aller traîner dans les couloirs de chez Gallimard. Donc c'est là aussi où il rencontre Camus, où il rencontre Sartre, lesquels venaient aussi à la librairie, où il rencontre Queneau, voilà.
Il va éditer d'ailleurs un texte de Camus, ce sera un des premiers
un peu plus tard, mais il va se lier vraiment d'amitié affectueuse avec Camus pendant très longtemps. Et donc, c'est toutes ces conversations et toute cette ambiance intellectuelle qui va pousser le jeune garçon d'à peine 20 ans à commencer à publier Sade.
Voilà. Il y a Breton aussi qu'il
fréquente. À Breton, ça sera un peu plus tard.
Mais quelle va être son importance à Breton dans la vie de Jean-Jacques Pauvert ?
Son importance va être énorme, énorme. Il va le connaître un peu plus tard. Alors, il sera déjà passé beaucoup de choses. Il aura déjà édité beaucoup de Sade. Il aura été déjà beaucoup poursuivi. Il aura été beaucoup convoqué par les juges d'instruction. Il aura déjà publié Histoire d'eau, puisque il publie Histoire d'eau toujours sous l'impulsion, enfin, avec l'ami Paulhan, si je puis dire, et avec dont l'auteur est Dominique Oury, alias Pauline Réage. Et donc, il ne fera connaissance de Breton qu'en 1955. Et en fait, il explique, dans ses mémoires notamment, que c'est à partir de 1954 qu'il s'est véritablement senti éditeur, avec justement le moment où d'abord il trouve un lieu pour sa maison d'édition, qui est la fameuse rue de Nesle, pas très loin de là où Poulet Malassi, son grand modèle, avait lui-même son échoppe.
Donc Poulet Malassi qui éditait les œuvres de Baudelaire, jugées licencieuses.
Voilà, et d'autres, beaucoup d'autres licencieuses, mais qui était un éditeur indépendant, qui était vraiment le modèle de Jean-Jacques Pauvert. J'ai fait une parenthèse, mais j'ai fait tellement de parenthèses
donc,
que...
Ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'il a un goût pour le surréalisme.
Voilà. Alors, il connaît donc Breton au moment où il a publié un de ses grands auteurs, qui est Darien, hein, Georges Darien, qui là aussi, c'est une redécouverte. Et donc, il a édité Le Voleur. Et Breton va faire un superbe article dans Art, mais la chose est un petit peu plus compliquée, parce qu'en même temps, les surréalistes étaient d'abord édités par Arcane. Losfeld. Et Losfeld a des ennuis dans sa vie.
Losfeld qui est l'autre grand éditeur érotique, disons.
Voilà, l'autre grand
un
rival.
Un peu alter ego et rival disons, à la
voilà,
fois de Jean-Jacques Pauvert.
Pas alter ego du tout, ils sont toujours gaillardement détestés, surtout Pauvert.
On les a associés, disons.
Comment ?
On les a un petit peu associés.
Oui, ils étaient vraiment... Pour la génération que je représente, d'ailleurs, Losfeld et Pauvert sont très très liés, parce qu'on on plongeait dans toutes leurs publications.
Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu peurs, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture et nous parlons de Jean-Jacques Pauvert, l'irréductible, avec vous, Chantal Aubry. On n'a pas vraiment expliqué quand est-ce qu'il devenait exactement éditeur, parce que il y a eu une revue, Palimurge, alors c'est un drôle de mot ça, Palimurge, qui va être un peu le départ quand même pour Jean-Jacques Pauvert.
Oui, non, le mot palimugre.
Ah, palimugre, donc c'est encore plus étrange.
Et son gris-gris. Et alors il explique qu'il a entendu ce mot de manière tout à fait à la surréaliste, d'ailleurs qu'il a trouvé ce mot en rêve, et en fait il va s'en servir pour une revue mort-née qui n'a jamais, juste à la Libération, qui n'existera en fait jamais, mais qui, dont il avait proposé, pour laquelle il avait proposé des participations, enfin des collaborations à des tas d'écrivains tout à fait importants. Ça allait de Marcel Aimé, à qu'il aimait beaucoup et qu'il lisait d'ailleurs beaucoup, à Léoto, qu'il fréquentait beaucoup. Cette revue n'existera jamais. Mais elle deviendra, le mot Palimug deviendra surtout, alors pour quelque temps, effectivement, le label de sa maison d'édition, mais très vite, ça va être, il va la nommer édition Jean-Jacques Pouvert ou Pouvert tout court, mais ça sera le nom des librairies successives qu'il aura, puisque dans la bonne tradition de issue du 19e siècle, il se voit toujours comme un libraire et éditeur, oui. C'est-à-dire les deux métiers, ce que dit aussi Charlot d'ailleurs, Edmond Charlot, dans ses mémoires.
Alors évidemment, il ne connaît rien à l'édition, hein. Il est extrêmement jeune, et il signe un premier contrat avec Monterland. Et il paraît que c'est Monterland qui lui dicte le contrat tellement il ne sait pas comment faire.
Alors ça, je crois que c'est vraiment vrai.
Donc oui. Il a tout à attendre. Et puis, il édite quand même avec une sorte de finesse beaucoup de gens qui vont compter, notamment la pièce Haute Surveillance de Genet, même si c'est sans doute pas la pièce la plus importante de cet auteur-là, mais enfin, il l'a quand même à son catalogue.
Il a connu Genet très tôt, l'histoire est tout de même pittoresque, c'est-à-dire qu'il l'a connu justement à la librairie Gallimard pendant la guerre, à une époque où le malheureux Genet passait sa vie à retourner en prison entre deux larcins de livres dans sa serviette à double fond, et il a noué une vraie amitié avec Genet, une amitié littéraire un peu, hein, et il restera ami très longtemps avec lui. Il fera aussi une édition des Bonnes avec un texte de Genet qui lui est spécialement adressé.
Donc ça, c'est
et dont
bien
il aura les droits.
De comprendre qu'il n'y a pas que Sade à cette époque-là, mais tout de même, en juillet 1949, c'est la publication de 10 volumes pour Histoire de Juliette. C'est le moment, l'année 49, où est promulguée la loi sur les publications destinées à la jeunesse. On peut rappeler un petit peu ce qu'il y avait dans cette loi qui signalait qu'il ne fallait en aucun cas démoraliser la jeunesse. Oui. Et puis, évidemment, la pornographie était interdite dans tous les ouvrages. Donc, il va y avoir un impact très fort de cette loi sur la publication des œuvres complètes de Sade qui commence à cette époque-là.
Oui, d'ailleurs, quelques années avant, et encore juste en 1949, d'autres éditeurs que lui avaient commencé à faire aussi quelques... Il est quand même pas tout à fait le seul. Il est le seul à avoir cette idée totale de tout. Sade. Mais des jeunes éditeurs tout à fait intéressants comme les éditions K, comme Le Soleil Noir aussi, avaient fait déjà, et sans avoir d'ennui, eux. Et lui, effectivement, dès qu'il commence à éditer Sade, il a des visites de la mondaine tout le temps, et il va être ennuyé tout le temps.
Ce qui l'amuse aussi, d'être surveillé par la mondaine, ou alors c'est peut-être ce qu'il a raconté plus tard.
Non, je crois que ça correspond tout à fait à son esprit. Il était à la fois, ça l'a quand même, ça a pesé au fil des années, parce qu'il avait tout le temps des ennuis. Donc il y a eu un moment qui est retracé au moment où Maître Garçon commence à s'occuper de lui, et où dans leur correspondance on voit à quel point il en a quand même un peu assez d'être tout le temps devant le juge d'instruction.
Ce qu'on m'a dit, la première chose que m'a dit de mon avocat Maurice Garçon, j'ai été voir le plus célèbre avocat naturellement tout de suite, comme on fait à cet âge quand j'ai eu des problèmes, il m'a dit « mais comment, c'est épouvantable, vous avez édité un auteur, il n'a pas employé le mot interdit, car il n'y a pas d'auteur ni de livre interdit en France, enfin, en gros, en général c'est comme ça que ça se passe, il y a des éditions qui peuvent être poursuivies, parce que ce sont des éditions de textes qui ont déjà été condamnés. Bon, ça n'est pas une raison, parce que justement, la France suit l'évolution des mœurs. On vous rejuge chaque fois. C'est pour ça que mon procès a duré 8 ans, parce que pendant le temps qu'ils me poursuivaient, ils m'ont poursuivi pour l'histoire de Juliette, après j'ai fait la Nouvelle Justine, et quand ils m'ont poursuivi pour la Nouvelle Justine, j'ai fait la philosophie dans le boudoir, puis après j'ai fait les 120 journées, donc chaque fois il fallait qu'ils recommencent. Et comme pour des raisons d'économie, ils ne veulent pas faire 50 procès, ils ont groupé tout ça une fois en 1953. Alors l'effet que ça me fait, moi c'est très intéressant, ça m'a beaucoup intéressé, hein. C'est une aventure très intéressante pour, en plus pour un jeune homme comme ça, de faire connaissance d'abord avec la police, la brigade mondaine, pas n'importe quoi, j'étais entre des trafiquants de drogue, les macros, etc., etc. C'était extrêmement intéressant. Et puis j'ai fait connaissance donc avec ce qu'on peut appeler en gros la censure, bon, qui n'est pas donc une censure, on vous juge. On m'a jugé longuement, on m'a jugé deux fois, pour me donner raison après. Et puis j'ai vu ce passage dans l'évolution des mœurs des années 40, qui étaient des années assez dures sur le plan de la censure, aux années, disons, les années 70, où la censure a disparu, d'une certaine manière, en France, la censure morale, en tout cas.
Procès, il faut en parler un petit peu. Chantal Aubry, il y avait quatre témoins à la barre, pas des moindres. Alors à la barre ou par lettre, hein. Oui. Cocteau, Breton, qui ont envoyé des courriers, et puis Bataille et Paulhan, qui eux étaient là vraiment pour le défendre.
Oui, et notamment Paulhan, qui est très célèbre pour la fameuse phrase quand le président du tribunal lui a dit « Mais enfin, vous ne donneriez pas ça à lire à vos enfants, ou je ne sais quoi », qu'il ait répondu « Oh, mais vous savez, je connais une jeune fille qui a lu la Bible et qui est entrée au couvent après ça. Mmh. » Enfin, je réduis un peu la citation, qui était beaucoup plus délicate que ça, parce que Paulhan était un homme extrêmement raffiné et délicat, mais il avait fait un témoignage qui est resté dans les annales, et que Pouvert, d'ailleurs, a publié lui-même.
Juste après le procès, il a publié finalement le verbatim des procès.
Voilà, à la fois la plaidoirie de Garceau, qui n'approuvait pas forcément d'ailleurs, parce que je pense qu'il avait ses idées lui-même sur la manière de se défendre, et la lettre de Breton.
Puis Bataille qui dit qu'il a confiance en la nature humaine quand le président lui dit « Ne croyez-vous pas que répandre une œuvre comme celle-là dans le public peut constituer un danger ?» Donc ça, c'est vraiment... une sorte d'engagement de sa part.
De la part de Bataille.
Oui.
Ah oui, tout à fait. Il savait de quoi il parlait.
Vous parlez d'ailleurs de Bataille dans votre livre, oui, dans beaucoup, son oui. rapport à Paulhan, à Jean-Jacques Pauvert. Vous souvenez que Pauvert vous en parlait en évoquant son œil charmeur, ses cheveux blancs, sa voix onctueuse d'ecclésiastique.
Oui.
Il racontait toujours leur rencontre, paraît-il.
Oui, il aimait beaucoup raconter cette histoire-là, et cette rencontre, et je l'ai entendue une fois ou deux, en effet, et ça l'amusait beaucoup, parce que c'était effectivement un petit peu... folklorique quand même, cette rencontre au départ, où ce monsieur très bien entre dans sa petite librairie de la rue du Ciseau et lui dit Lord Hawke ou Pierre Angélique, il y avait plusieurs pseudos. Mmh. C'est moi. Et à partir de là, effectivement, une grande amitié est née, et Pouvert est devenu quand même éditeur d'une grande partie de son œuvre, la partie érotique et romanesque.
Oui. Alors Paulhan, il faut peut-être évoquer du coup le manuscrit d'Histoire d'eau. Parce que Pauvert a l'impression qu'il tient là vraiment ce qui va le lancer. C'est l'année où Françoise Sagan publie Bonjour Tristesse, et Françoise Sagan va publier un livre qui va se vendre à 1 million d'exemplaires, alors que Histoire d'eau, ça ne va pas marcher sur le moment du tout.
Oui, mais là, on fait un peu d'histoire rétrospective, si je puis me permettre. Parce qu'en réalité, quand il publie Histoire d'eau, c'est parce qu'il est effectivement persuadé, enfin qu'il est... comme à la lecture de Sade, tout à coup, Histoire d'eau, pour lui, c'est le livre de sa vie, mais pas dans une perspective de best-seller, pas du tout. Et je pense que même à l'époque, il n'est pas très très conscient. Bon, tout le monde connaît le succès que va avoir Sagan, mais il joue pas du tout dans la même cour, de toute façon. Ça, c'est pas ce qui le motive et ce...
Même mais... si Sagan, il l'éditera plus tard.
Voilà, il deviendra ami avec François Sagan via René Julliard, lequel René Julliard, grand éditeur devant l'Éternel, a été aussi un homme très secourable pour le jeune Pauvert au moment où justement il avait des difficultés, ses premières grandes difficultés financières en 57-59.
Voilà. Alors ces difficultés qu'il conduise à imaginer divers moyens de s'en sortir, comme par exemple de s'associer avec Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, en achetant une camionnette Citroën pour aller faire un tour de France pour faire la promotion de leur livre
auprès des libraires. Oui, c'est un petit détail, oui, c'est un des seuls moments où ils sont bien entendus, apparemment, parce qu'ils ne sont pas toujours très bien entendus. Mais la camionnette, effectivement, c'était une manière de vouloir complémentariser cette diffusion dans librairie qui était déjà bien trop confidentielle pour eux. Voilà, et ça n'était pas la manière vraiment de résoudre tous leurs problèmes financiers, parce qu'ils en avaient tous les deux d'ailleurs.
Oui, alors René Julliard va peut-être l'aider aussi.
René Julliard a eu un rôle vraiment tout à fait décisif dans sa vie à ce moment-là, parce qu'il avait donc, dans toutes les grandes entreprises de Jean-Jacques, il en a eu des mégalomaniaques, et il y a eu cette affaire du Littré qui lui vient aussi un peu de Poland, hein, parce que Poland lui-même avait, quelques années avant, avait proposé à Gaston Gallimard de faire une édition du Littré complétée. Et Gaston n'avait pas réagi du tout, l'idée s'était perdue, et je pense que l'influence de Poland, là aussi, est importante. Et donc, il va se lancer comme un jeune fou, il faut bien dire, et sans vraiment bien veiller, la comptabilité n'était pas vraiment son fort, ni de ceux qui l'entouraient a priori. Et donc, ils vont se lancer dans une édition du Littré magnifique, totalement originale. Conçu par le grand maquettiste Jacques D'Arche,
comment ? Mais qui le met sur la paille.
Mais qui va le mettre sur la paille. Et donc à ce moment-là, comme Gaston Gallimard avait trouvé que l'idée était très bonne, et que la maison Gallimard s'intéressait beaucoup à ce que Jean-Jacques appelle son petit fonds, déjà, qu'il avait constitué, il a vraiment failli, enfin, voilà, l'idée était qu'il rentre, comme beaucoup d'autres éditeurs étaient entrés, notamment René Berthelet, par exemple, qu'il rachète le fonds et que c'était une des solutions qui aurait dû être celle de le destin. Et il est arrivé à trouver René Julliard qui lui a permis de s'en sortir.
Des auteurs. Chantal Aubry, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se passe de nouveau dans la profession d'éditeur dans ces années-là, 50, 60, 70 ? Il y a le cercle du livre précieux, par exemple, de Claude Tchou, et les éditions du Terrain Vague d'Éric Losfeld. Il y a comme ça une sorte d'ébullition. Quel est le panorama ?
Eh bien, le panorama est celui, finalement, un peu éternel, d'une grosse cavalerie constituée par les grosses maisons Gallimard, Hachette, etc. Grasset, qui a quand même repris du poil de la bête, qui a été racheté d'ailleurs par Hachette. Il y a des grosses maisons, Plon, etc. Et il y a une escouade de francs-tireurs, d'éditeurs indépendants, parmi lesquels, nous en avons déjà parlé, donc effectivement, le Sfel, Lindon, éditeur... qui a racheté l'édition de Minuit en 48 et qui est un éditeur très littéraire et très très engagé politiquement.
On en parlera demain.
Voilà. Et il y a aussi Tchou. Mais Tchou, son statut est un peu différent dans la mesure où il a d'abord été il faisait du livre club. Ça n'était pas, et puis donc il récupérait des choses éditées par les autres. Il n'était pas éditeur au premier degré, si je puis dire, pendant longtemps. Il créera sa maison uniquement et seulement en 1968, hein, beaucoup plus tard. Dans les pionniers de l'époque, il y a donc, ça va surgir au début des années 60, François Maspero, autre éditeur très engagé, qui a été aussi une icône pour la génération à laquelle j'appartiens et pour les générations qui ont suivi. Et puis, un peu à part, il faut mettre Giraud Diaz quand même.
Oui. Voilà. Alors, qui publie aussi des choses qui jugées scandaleuses.
Alors voilà, des livres érotiques et carrément pornographiques, mais qui a quand même publié Miller et Lolita de Nabokov, mais qui publie en anglais, ouais, et pour le marché anglais.
Alors on a beaucoup dit qu'il y avait des difficultés financières à la maison Pauvert, mais il y a aussi eu des années fastes. Il y a même eu des prix très importants. Le prix Médicis en 1960 avec le souffleur de Pierre Klossowski. D'ailleurs, Madeleine Chapsal, je crois, avait fait le portrait de Pauvert dans l'Express. Et ça avait tellement contrarié François Mauriac qu'il était parti au Figaro. Le scandale était trop important pour lui. Et puis, il y a eu le Goncourt quand même, Chantal Aubry.
Oui, le Goncourt, c'est donc un petit peu plus tard. il faut peut-être
en 72.
Replacer, voilà, il faut replacer donc si vous voulez, Jean-Jacques Pauvert est quelqu'un qui ne cherchait pas le réussite commercial, il faisait les livres qu'il avait envie de faire au plus près de lui. Hein, il y a des livres d'auteurs oubliés, d'écrivains à redécouvrir. Il aimait le fantastique, il aimait la littérature gothique, le roman noir, mais aussi les Lumières. Il aimait les Décates en fin de siècle, enfin tout ce que nous avons aimé dans sa foulée, si je puis dire. Mais les livres d'auteurs contemporains, au tout départ, ça n'était pas vraiment son histoire. Et puis, à peu près en 1965, un tout petit peu avant, puisqu'il avait un adjoint littéraire qui était d'ailleurs son ami de lycée de la Canale, qui s'appelait Jean-Pierre Castelnau, qu'il avait engagé dès le début des années 60 pour lire des manuscrits qui commençaient quand même à arriver en quantité. Et Jean-Pierre Castelnau, lui, a été un vrai scout, comme on en dit. Et donc, il lui a apporté des titres qui venaient d'ailleurs du Midi protestant. Enfin bon, c'était Albertine Sarrazin. Et plus tard, Jean Carrière. Voilà.
Donc c'est Jean Carrière qui obtiendra le Goncourt en 1972. Bien mal lui en prendra d'ailleurs, puisqu'il supportera très mal d'avoir ce prix-là.
Oui. À la fois, alors effectivement, c'est le grand traumatisme. Il est toujours cité comme le grand traumatisé du Goncourt, le type qui a fait une rétention terrible par la suite. J'ai l'impression, d'après tout ce que j'ai lu et découvert dans les conditions dans lesquelles justement le Goncourt a été pas attribué, mais c'est le moment où son éditeur va se vendre à Hachette. Et lui, le malheureux Jean Carrière, qui était quand même par ailleurs un écrivain très sauvage et très retiré, qui n'était pas du tout un mondain, il va se voir d'abord précipité effectivement dans le chaos, le germano-prétin, mais surtout, il va être obligé de re-signer un contrat à la maison Hachette. Et je pense que et de se retrouver totalement perdu un peu chez Hachette, et je pense que ça aussi, pour lui, ça a été un double traumatisme, qu'on connaît moins, mais qui a existé.
Alors, comment ça se termine l'histoire des éditions Pauvert? Parce que ce nom-là, Pauvert, existe toujours, mais sous forme d'une collection chez Fayard. À un moment donné, il n'y aura plus, à proprement parler, d'éditions Pauvert, Chantal Aubry.
Oui, mais là aussi, il y a une petite histoire à raconter, c'est-à-dire qu'elle commence justement avec le prix Goncourt, c'est-à-dire que dirigeait à l'époque le groupe Livre chez Hachette un éditeur éminent et particulièrement brillant, que nous regrettons tous, qui était Bernard de Fallois. Et Bernard de Fallois était en amitié et en sympathie avec Jean-Jacques, et c'est lui qui l'a tiré d'affaire à ce moment-là, parce qu'il ne pouvait pas avoir le Goncourt s'il restait diffusé comme il était diffusé, et s'il était éditeur indépendant, il n'avait même pas de quoi payer la fabrication d'un nombre suffisant de livres à diffuser au moment du Goncourt. Les jurés du Goncourt ne lui auraient jamais donné le prix s'il ne s'était pas donné à Hachette. Et à partir de là, c'est un engrenage où Hachette peu à peu prend des participations de plus en plus importantes et devient peu à peu propriétaire de son catalogue, l'engage dans une nouvelle société des éditions Jean-Jacques Pauvert où il n'a plus qu'un titre de directeur, et peu à peu son rôle va s'amoindrir et finalement il sera licencié en 79. Donc ça, c'est une histoire très 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 pénible, très dure, et il a lutté comme un beau diable.
Et qu'est-ce qui se passe pour lui alors après 79?
Alors après 79, c'est là aussi où il commence beaucoup déjà dans le milieu des années 70, il commence à écrire et à travailler sur ces énormes anthologies des lectures érotiques. Donc là, après, il va mener à la fois toujours ce que j'appelle moi une carrière d'éditeur sans domicile fixe. Il aura des étiquettes diverses, Compagnie Jean-Jacques Pauvert, Jean-Jacques Pauvert et compagnie. Enfin, il avait beaucoup d'imagination pour ça. Mais il éditera chez Garnier, chez Julliard, chez Grasset, partout. Toujours en compte à demi, qui était le système qu'il avait inventé avec René Julliard dans les années 60.
En 90, pardonnez-moi, je vous ai un petit peu interrompu, dire quand même qu'il a été l'éditeur de Guy Debord.
Oui.
Ça paraît important de terminer là-dessus en quelques secondes.
Absolument. Moi, je ne vois pas le temps passer. Je raconterai pendant des heures la saga de Jean-Jacques Fauvert. Alors donc, effectivement, pendant les années 80, il va avoir un certain nombre de d'étiquettes. Et il va même recréer une petite maison d'édition qui s'appelle Harpo et dont les collaborateurs, notamment Nicolas Neumann, gardent un excellent souvenir. Mais malgré tout, voilà, son rôle d'éditeur s'étiole. Et il y a cette rencontre avec Guy Debord, qui est pas une rencontre brutale, mais qui va lui permettre, enfin brutale, je veux dire, ils se connaissaient déjà un petit peu avant, mais une vraie complicité va s'installer entre eux et il va devenir l'agent de Guy Debord.
Merci beaucoup, Chantal Aubry. Je rappelle votre ouvrage Fauvert, l'irréductible, une contre-histoire de l'édition. C'est aux éditions L'Échappée et ça vient de paraître à la fin de l'année 2018. On vous doit également le livre La femme et le travesti, paru aux éditions du Rouergue en 2012. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Jeanne-Pin, Garance Mazelier et Clément Daté. Demain, c'est des éditions de minuit de Vercors à Jérôme Lindon dont nous parlerons. Mais tout de suite, c'est le moment de la poésie que vous propose, comme chaque jour, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Puisque nous y sommes, dans la quinzaine magique, la conjonction des planètes, allons-y au salon de beauté. Quand on parle de beauté en poésie, attention, il ne peut s'agir d'une beauté de façade, ni mannequin, ni muse refaite ou beauté de salon, fût-il littéraire, encore moins beauté d'institut. Sortez l'affiche, allégez le printemps, il n'est pour entamer cette belle pensée de la beauté que l'ébranlement qui rend sot, la fulgurance, le bouleversement complet ou la vénéneuse attirance. Merci mon bon, mon beau de l'air. Ô charogne la beauté, le ventre en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, son ventre plein d'exhalaisons, Baudelaire, ou franc du collier comme Rimbaud, l'asseoir sur ses genoux, injurier la beauté fait partie du grand jeu. Sans procès, sans lynchage, il faut la brutaliser, cette beauté, lui tirer les cheveux, méchanceté. Avec André Breton, on l'a sommé d'être convulsive, empruntant sa formule à l'autre Arthur Cravant. Arthur Cravant, disons pour commencer, que les abrutis ne voient la beauté que dans les belles choses. Arthur Cravant, poème qui s'appelle « I ». Quelle âme se disputera mon corps ? J'entends la musique, serais-je entraîné ? J'aime tellement la danse et les folies physiques que je sens avec évidence que si j'avais été jeune fille, j'eusse mal tourné. Mais depuis que me voilà plongé dans la lecture de cet illustré, je jurerais n'avoir vu de ma vie d'aussi féeriques photographies. L'océan paresseux berçant les cheminées, je vois dans le port sur le pont des vapeurs, parmi des marchandises indéterminées, les matelots se mêler aux chauffeurs, des corps polis comme des machines, mille objets de la Chine, les modes et les inventions, puis, prêts à traverser la ville dans la douceur des automobiles, les poètes et les boxeurs. Ce soir, quelle est ma méprise, qu'avec tant de tristesse tout me semble beau, l'argent qui est réel, la paix, les vastes entreprises, les autobus et les tombeaux, les champs, le sport, les maîtresses, jusqu'à la vie inimitable des hôtels. Je voudrais être à Vienne et à Calcutta, prendre tous les trains et tous les navires, forniquer toutes les femmes et baffrer tous les plats, mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, ange et noceur, millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau, lâche, héros, nègre, singe, donjuan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel, faune et flore, je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Que faire? Essayons du grand air, peut-être y pourrais-je quitter ma funeste pluralité. Et tandis que la lune, par-delà les marronniers, attelle ses lévriers, et qu'ainsi, qu'en un kaléidoscope, mes abstractions élaborent les variations des accords de mon corps, que mes doigts collés aux délices de mes clés absorbent de fraîches syncopes sous des motions immortelles, vibrent mes bretelles, et piéton idéal du palais royal, je m'enivre avec candeur, même des mauvaises odeurs.
À 17h dans LSD, il sera question des 4 saisons de l'agriculture, mais tout de suite, une émission qui réveille, c'est la méthode scientifique avec vous, Nicolas Martin.